Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. La Russie sur le point d'emporter la bataille de Bakhmout. Après un an de guerre, l'Ukraine aurait-elle épuisé ses forces? Jusqu'où les Occidentaux sont-ils prêts à s'engager face à Moscou dans cette guerre? L'Info C'est Clair est intitulé « Ukraine, la Russie relancée à Bakhmout ». Nos invités, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Isabelle Lasserre, bonjour, vous êtes correspondante diplomatique au Figaro, vous avez été correspondante en Russie. Et Édouard Joly, vous êtes chercheur en théorie des conflits armés à l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, hein, Bakhmout est sur le point de tomber aux mains des Russes. Les hommes de la milice Wagner affirment avoir encerclé la ville. La quasi-totalité des habitants de cette ville qui comptait 70 000 habitants ont fui. Et dans les faubourgs de Bakhmout, les dernières unités ukrainiennes tentent de défendre leur position. Reportage sur place d'Agnès Varamian, Soufiane Yassine et Patrick Miette.
Cette voiture est parvenue à sortir de Bakhmout.
La situation est tendue. Le pont est cassé là-bas. Il faut faire des détours. Et puis, on va bientôt évacuer nos gars de la ville. On va les sortir.
Nous quittons la grande route pour un village où se joue une bataille décisive. Quelques maisons et à notre arrivée, des tirs.
C'est nos blindés légers. Ils tirent. À 4h cette nuit, les Russes ont lancé un assaut qu'on a repoussé.
Les soldats se cachent dans les maisons. Ils nous disent attendre les renforts de Kiev.
Il faut tenir ici à tout prix. Car s'ils prennent le village, ils peuvent encercler Bakhmout.
Bakhmout et ses chemins de boue. La ville, devenue symbole, ne s'est toujours pas livrée aux Russes.
Ce que vous ne verrez pas, parce que les Ukrainiens ne veulent pas le montrer, c'est qu'ils sont en train, tout autour de ces villages, de sécuriser des routes à travers champs pour assurer la retraite de Bakhmout si elle doit avoir lieu.
Alors Isabelle Lasserre, est-ce qu'on peut dire que Bakhmout va tomber aux mains des Russes et que oui, bah, la dynamique est en train de changer de camp. Elle est du côté des Russes en ce moment. La dynamique
Alors,
militaire.
Il faut faire attention parce que si vous vous souvenez bien, le patron de Wagner, il y a un mois, avait déjà annoncé que Bakhmout avait, qu'il avait pris Bakhmout et que Bakhmout était tombé. On est un mois plus tard et les choses n'ont pas l'air d'arriver. Ça paraît plus vraisemblable qu'il y a un mois, notamment parce que Volodymyr Zelensky a rendu un hommage appuyé à ses soldats. Et que là, on voit, il n'y a pas de démenti ukrainien. Alors, est-ce que c'est une nouvelle dynamique? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu dans cette bataille de Bakhmout à la fois les limites et les faiblesses des deux armées. C'est-à-dire que du côté ukrainien, on manque de munitions et on manque d'hommes. Et du côté russe, on a vu que la mobilisation annoncée par Vladimir Poutine n'avait pas suffi à s'emparer rapidement de Bakhmout. Qu'est-ce qu'il reste? Quand même, ça fait six mois que les Russes essayent de s'emparer de Bakhmout. Alors Bakhmout ne sera plus qu'un tas de ruines. Évidemment, si les Russes prennent Bakhmout, c'est un symbole. Ça ouvre peut-être une voie pour aller plus loin. Mais moi, personnellement, je ne m'aventurerai pas plus loin. Parce que les enjeux sont multiples. C'est à la fois les deux armées qui se jaugent, qui se testent. C'est à la fois, une bataille entre les mercenaires de Wagner et l'armée régulière, donc c'est une bataille de courants d'influence à Moscou. C'est tout ça qui est aussi en jeu à Bakhmout.
Alors, hier justement, Elsa Vidal, on a du mal à comprendre cette rivalité qu'a l'air d'ailleurs d'instrumentaliser Vladimir Poutine, je ne sais pas avec quel objectif, entre l'armée régulière et Prigojine, donc qui dirige les mercenaires de Wagner, et qui se permet de critiquer l'armée régulière. Il a même qualifié de haute trahison, voilà, leur attitude, parce que voilà. Qu'est-ce qui se trame? Comment décrypter cette rivalité là entre cette armée privée et cette armée russe régulière?
Bah déjà, pour commencer, la simple existence de cette armée privée, donc d'une troupe de mercenaires en Russie, est illégale. Elle n'a toujours pas été légalisée. Donc, de ce point de vue-là, l'existence de cette armée au grand jour, qui plus est, et le fait qu'elle puisse se revendiquer d'un droit à commenter les activités de l'armée régulière, est un camouflet pour l'armée régulière. L'institution militaire, traditionnellement dans la pratique étatique en Russie soviétique et aujourd'hui, c'est une institution qui pèse assez peu du point de vue politique. Elle met en œuvre des politiques, elle ne les élabore que très peu, pas strictement dans le domaine militaire, mais elle pèse beaucoup moins, par exemple, que les services de sécurité. Et de ce point de vue-là, elle est déjà dans une situation d'une relative faiblesse dans le champ institutionnel. Mais surtout, ce que fait Prigogine, le chef des Wagner, c'est rendre service à Vladimir Poutine en dirigeant le mécontentement lié à l'absence de réussite dans la guerre vers le ministère de la Défense. C'est surtout ça qu'il fait. Et pour Vladimir Poutine...
Et c'est en rien une contestation de Vladimir Poutine.
Hein, en rien, absolument.
Ne cherche pas à concurrencer, etc.
Prigogine, pour qu'on comprenne, c'est un homme qui a rencontré en tout et pour tout, en 20 ans, 6 fois Vladimir Poutine. Généralement, il rencontre le porte-parole de Vladimir Poutine, ce qui a l'air d'être l'intermédiaire pour passer les messages et ce qui est attendu. Donc, ce n'est pas un proche de Vladimir Poutine. C'est quelqu'un, en revanche, qui existe grâce à Vladimir Poutine et grâce au service qu'il rend à la présidence et qu'il continue de rendre. Il est en émulation, mais plutôt, par exemple, avec un acteur comme Ramzan Kadyrov, qui, lui aussi, essaye de glaner... Le président de la Tchétchénie, qui essaye de glaner plus de pouvoir au sein du microcosme des dirigeants russes pour ses propres intérêts.
Édouard Joly, alors on voit cette pauvre ville de Bakhmout qui comptait 70 000 habitants, je crois qu'il y en a plus, moins de 5 000 aujourd'hui à peine, elle est détruite. On a du mal à comprendre quel est l'intérêt de la prise d'un champ de ruines. Est-ce qu'il faut parler de victoire à la Pyrrhus ou est-ce que non, c'est comme ça, la guerre des territoires, il faut prendre des villes, quitte à les raser avant de d'en prendre possession.
En fait, comme ça, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait plusieurs mois déjà que la situation elle est fixée sur cette ville. Et si on a tendance à justement regarder avec une loupe ce qui se passe sur place, c'est parce que c'est à cet endroit qu'il y a eu la concentration des forces de part et d'autre depuis plusieurs mois. Étant donné qu'on a un an de guerre et que les troupes des deux côtés sont épuisées, ont dû remobiliser, donc on a une relative fixation du front, sauf sur cet endroit où donc en raison de cette concentration, on a vu énormément de pertes des deux côtés et aussi un avancé, pour revenir à ce qui vient d'être dit, de l'importance des troupes de Wagner, des mercenaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous regardez, ne serait-ce que dans l'histoire des guerres en France, certaines situations, pendant la Première Guerre mondiale, c'est assez comparable. C'est-à-dire qu'à force de rester sur place, les soldats ont de plus en plus de mal à trouver le ressort moral d'aller au front. Pourquoi ? Parce qu'ils constatent en permanence l'intensité des pertes. L'avantage d'employer des mercenaires, c'est que vous pouvez envoyer vos troupes se faire massacrer jusqu'à temps qu'en face, l'autre camp soit épuisé. Ça, du côté ukrainien, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela qu'on voit, à chaque fois que vous aviez, enfin moi c'est ma lecture du moins sur le plan du combat, quand vous avez une prise de parole de Prigogine, c'est qu'en réalité sur le terrain, ces troupes sont à la manœuvre et sont essentielles. Et c'est ce qui montre une autre chose, cette prise d'importance de Prigogine, c'est qu'on était dans une phase avec les guerres de contre-insurrection, de désétatisation de la guerre. C'est-à-dire que vous aviez des acteurs non étatiques qui étaient en jeu dans tous les conflits, que ce soit au Sahel ou en Syrie. Ici, on a un conflit interétatique dans lequel on a un acteur non étatique qui prend de plus en plus d'importance et qui arrive à faire quelque chose donc, d'assez propre à ce conflit, c'est-à-dire qu'il fait de la guerre un business. Et ça, c'est un des
pour
aspects...
Pour gagner en influence, voilà. En visibilité et dire... Je rends des services et donc je me valorise auprès de Poutine.
Exactement, hein, ça devient donc c'est une entreprise au sens, j'ai un collègue qui appelle ça, c'est une entreprise géopolitique.
Alors, il n'empêche, on verra à la fin des fins, Isabelle Lasserre, mais il semble que les Russes prennent l'avantage à Bakhmout. Mmh. Résultat, comment interpréter la phrase d'Emmanuel Macron ? La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aider plus les Ukrainiens pour éviter que justement les Russes ne prennent l'avantage, puisque Édouard Joly le disait, des deux côtés, on est à bout de munitions là après, à bout de moyens après un an de guerre.
Oui, la phrase « la Russie ne doit pas gagner cette guerre », ça veut dire qu'il faut aider plus et surtout plus vite les Ukrainiens. Or, depuis le début de la guerre, les Occidentaux aident, et ils aident effectivement de plus en plus l'Ukraine, mais certains pays ont les pieds appuyés sur des freins. Et on verra la suite.
Lesquels, alors, Washington, quelle est la position de Washington, monsieur?
C'est surtout la France et l'Allemagne, quand même.
Qui freinent.
En tout cas, ils freinent parfois au niveau politique et diplomatique. En fait, sur le fond, la France livre des armes à l'Ukraine, et le soutien militaire et politique de la France n'est absolument pas... ne peut pas être mis en doute. Mais de manière collective, à part les pays de l'Est, les pays d'Europe occidentale ont traîné et traînent encore à livrer des armes. C'est-à-dire que si on veut vraiment que les Ukrainiens gagnent, aujourd'hui, il faudrait leur livrer tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire davantage de munitions, des chars plus rapidement, des avions de chasse, etc. Donc c'est là qu'il y a une espèce de contradiction à vouloir une victoire ukrainienne, mais on a du mal à accorder les faits aux paroles. Quant aux États-Unis, non, les États-Unis, ils ont été quand même depuis le début. Enfin, on critique beaucoup les États-Unis, mais enfin, si les Ukrainiens ont réussi à résister aux Russes jusque-là, c'est quand même grâce aux États-Unis. Sans les États-Unis, je pense que les Russes seraient peut-être à Kiev aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas failli. Ils n'ont pas failli au niveau politique, au niveau diplomatique. Alors, évidemment, il y a toujours des guillemets avec l'aide américaine. C'est-à-dire que les États-Unis regardent la guerre russe en Ukraine avec des lunettes chinoises. Hein, donc, ils ont la Chine en arrière-plan. Ils ne veulent
pas...
Si
on laisse les Russes faire ça, les Chinois font la même chose à Taïwan.
Ça, d'une part, et d'autre part, leur objectif... ils ont été détournés momentanément de leur grand virage vers l'Est et vers le Pacifique, vers la Chine, mais ils n'ont pas l'intention de s'éterniser ici. Le problème de l'aide américaine, il se posera, ou pas d'ailleurs, en 2024 au niveau aux prochaines élections, cas de victoire d'une nouvelle administration plus trumpiste. Mais, et encore, on ne sait pas, mais c'est là. Et je pense que Vladimir Poutine, lui, a aussi ça en tête, hein, parce que c'était quand même un conflit qui... c'est un conflit qui est mondialisé au niveau des influences et des réflexions géopolitiques. Donc Vladimir Poutine, je ne suis pas dans sa tête, mais il a sans doute en tête de tenir jusqu'aux élections américaines et d'espérer une victoire de Trump ou de l'un de ses affidés.
Alors, si la France, comme vous dites, par moment donne l'impression de tergiverser dans son aide à l'Ukraine, c'est parce qu'elle a en tête le risque escalatoire, hein, c'est comme ça qu'on dit. On redoute une extension du conflit. Dans le cadre de l'OTAN, il faut savoir que nos soldats, nos militaires, se retrouvent en première ligne face à la Russie. Dans les Pays-Baltes, il y a 4 Rafales, avec des pilotes français, qui sont stationnés en Lituanie afin de protéger les frontières des Pays-Baltes contre d'éventuelles incursions d'avions de chasse russe, et ben vous allez voir, document exceptionnel de nos journalistes qui ont suivi ces 4 rafales, Valérie Lerouge et Guillaume Marc.
Une alarme stridente dans le froid glacial de Lituanie. Le signal pour une quinzaine de mécaniciens, techniciens et pilotes français pour rejoindre en urgence ces immenses abris. À l'intérieur, 4 rafales tricolores.
Allez, c'est parti, on est à fond dans le match, là, ça a sonné, il faut décoller au plus tôt. Donc voilà, on a quelques minutes, vous allez voir, ça va pas traîner.
Le capitaine Régis a moins de 15 minutes pour décoller en binôme avec un deuxième rafale. Ils doivent identifier un appareil suspect qui s'approche de l'espace aérien de l'Union européenne. Les moteurs rugissent. La montée est spectaculaire. Cette fois, c'est un tango scramble, un exercice d'entraînement comme ils font 2 fois par jour. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a quelques semaines, ce Sukhoi 34, un bombardier russe à droite de l'image, volent vers la côte estonienne. Les deux rafales viennent à sa hauteur, l'encadrent. Un le salue de la main pour tester la réponse russe.
Fighter type flanker.
L'autre l'identifie, le photographie. Ce jour-là, ce Sukhoi ne semble pas armé, mais que faisait-il ici ? L'appareil sera escorté jusqu'à ce qu'il revienne dans l'espace aérien russe. Depuis 3 mois, les Français jouent les gendarmes du ciel pour les pays baltes dans le cadre de l'OTAN. La mission des Français avec l'OTAN est d'autant plus précieuse que les pays baltes ne disposent d'aucun avion de chasse hormis celui-ci, érigé en stèle. Et la démonstration de force française rassure les Lituaniens très inquiets depuis l'invasion de l'Ukraine.
On est sur la liste. Personne n'a envie d'être le prochain, mais c'est ce qui va se passer si les Russes réussissent en Ukraine.
Elsa Vidal, on est sur la liste. On mesure mal l'effroi des pays baltes face à l'idée que ce qui arrive aux Ukrainiens puisse leur arriver à eux.
On mesure mal, en fait, la profondeur historique, le poids de l'histoire dans ces pays qui flanquent la Russie et qui ont tous, que ce soit les pays baltes, la Pologne, la Moldavie, l'Ukraine, à un moment ou à un autre, ont fait partie de l'Empire russe ou et de l'Union soviétique, et qui se sont battus pour avoir des États indépendants, parfois très brièvement, qui ont survécu 2 ans, mais qui ont laissé des souvenirs dans la population, tout comme ont laissé les souvenirs des déportations, des arrestations, des exécutions. Donc cette guerre, étant donné en plus la manière dont elle a été présentée par Vladimir Poutine, en présentant l'Ukraine comme s'étant corrompue au contact de valeurs occidentales, cette guerre leur laisse entendre qu'ils pourraient être les suivants, puisqu'eux ont rejoint l'Union européenne, si on parle des Baltes, et l'OTAN en 2004. C'est leur crainte. Après, sans nul doute que ces craintes, il faut les balancer avec d'autres éléments et d'autres analyses.
Édouard Joly, on comprend, mais c'est leur histoire. C'est l'histoire des Baltes qui ont été envahis, absorbés, massacrés par le pouvoir de Moscou. Mais on comprend très bien, on respecte, mais est-ce qu'on doit, nous, se laisser entraîner dans, on a l'impression, ce face-à-face que souhaite de Pays-Baltes, qui voudrait presque en découdre vis-à-vis du pouvoir à Moscou?
Alors, à l'heure actuelle, la probabilité que la Russie décide d'ouvrir un deuxième front me paraît assez réduite, puisque si vous répartissez vos efforts à plusieurs endroits, vous avez d'autant plus de mal à les maintenir. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'avec ce que vous avez montré avec votre reportage, c'est-à-dire que les forces françaises qui sont dans le cadre de l'opération Lynx dans les pays baltes, c'est ce qu'on appelle des forces de préposition. Et l'objectif est de faire exactement ce que votre reportage montre, c'est-à-dire que les patrouilles réalisées par l'armée de l'air ont pour vocation à montrer la présence, à maintenir notre présence, ce qui est différent de ce qu'on peut faire avec l'armée de terre. Pour comprendre la différence d'usage qu'on fait entre l'armée de l'air et la marine et l'armée de terre, c'est une armée qu'on va dire de sillon, c'est-à-dire qu'elle, typiquement, elle creuse sa tranchée comme on voit en Ukraine. L'armée de l'air et la marine, c'est une armée de sillage, c'est-à-dire que vous avez besoin d'en permanence entretenir un circuit de façon à éviter des incursions dans votre espace aérien. Ici, de là à dire qu'on serait entraîné, il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'OTAN, ici, il y a le parapluie nucléaire aussi, et que la dissuasion nucléaire doit empêcher, et donc faire son travail, c'est-à-dire dissuader le belligérant en face, la Russie, de passer à l'offensive. Ce qui n'est pas le cas avec l'Ukraine, et c'est ce qui fait qu'en Ukraine, on assiste davantage à un conflit qui, finalement, nous rappelle une synthèse de ce qu'on a vécu pendant tout le XXe siècle, Première et Deuxième Guerre mondiale.
Isabelle Lasserre, alors on va révéler un petit secret. Vous étiez dans l'avion présidentiel d'Emmanuel Macron, on peut le dire, hein, après la conférence de la paix à Munich. Il y avait 3 journalistes dans l'avion présidentiel, dont vous. Et c'est là où Emmanuel Macron s'est entretenu avec vous et a dit cette fameuse phrase. Il souhaite la défaite de la Russie, mais il ne veut pas écraser la Russie. Là, on voit votre article à l'écran. Pourquoi le président Macron tient-il à bien préciser qu'il ne faut pas écraser la Russie? Parce que c'est l'intention qu'il prête à certains dirigeants d'Europe de l'Est, type les pays baltes ou les Polonais, qui, selon Emmanuel Macron, pourraient vouloir écraser la Russie.
Oui, c'est l'intention qu'il prête. Alors qu'en fait, les pays baltes, enfin personne dans la région, et pas même les Ukrainiens, n'ont l'intention d'arriver et de prendre Moscou avec leurs chars. En revanche, il est clair que les Ukrainiens, comme les pays d'Europe orientale, hein, ceux qui ont vécu dans leur chair, dans leur sang, et qui ont souffert des invasions russes, et qui se sentent vraiment totalement menacés aujourd'hui, pensent qu'aujourd'hui, il y a une opportunité historique de se débarrasser du régime de Vladimir Poutine. Ils pensent aussi que si la Russie gagne ou si Poutine reste au pouvoir, la politique la guerre reprendra d'une manière ou d'une autre. Alors, sans doute pas demain, parce que les Russes n'ont pas les moyens aujourd'hui d'ouvrir effectivement, comme vous le disiez, un second front, mais dans 20 ans, par exemple, ou dans 10 ans, quand ils auront reconstitué leur force militaire. Et en fait, les pays baltes pensent que tant qu'en fait on n'aura pas réglé le problème initial, qui est de savoir pourquoi les Russes démarrent sans arrêt des conflits en Tchétchénie, en 2008, en Géorgie, en 2014, en Ukraine, parce que là on se focalise sur l'invasion, mais ces guerres durent depuis 20 ans, hein, et puis on peut aussi les faire remonter bien avant. Donc en fait, les pays baltes pensent qu'il faut qu'aujourd'hui on aide les Russes à faire cette réflexion historique, à se confronter à leur passé et à se débarrasser définitivement de cette espèce de cancer qui se métastase dans toute la région. Et là, les pays d'Europe occidentale, et notamment la France et Emmanuel Macron, ont une vision complètement différente. C'est-à-dire qu'ils se disent, si Vladimir Poutine est renversé demain, ça va être pire. Ça va être pire parce qu'on aura, par exemple,
un Prigogine.
Et au moins, Vladimir Poutine, on le connaît. Alors, il est ce qu'il est, c'est pas un mec bien, mais on le connaît. Et puis alors après, du côté français, il y a tout ce qu'on trimballe, en fait, et qui se retrouve systématiquement dans les politiques françaises de chaque président, quel qu'il soit.
C'est-à-dire un biais pro-russe.
C'est-à-dire un espèce de prisme russe, une amitié, une illusion, il faut absolument ménager la Russie. L'amitié franco-russe. Alors, ça, c'est pour le côté culturel. Ouais. Et puis, surtout, ce lien. Cette connexion franco-russe qui est censée faire le pendant aux États-Unis, c'est-à-dire qui est censée sauvegarder garantir l'indépendance et la souveraineté de la France en ce que elle permet d'établir une distance avec les Américains. Et ça, c'est la politique française depuis toujours, et c'est ce qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui. Plus, il y a toujours eu chez les Français, et ça se voit aussi chez Emmanuel Macron, un espèce de mépris quand même de ces petits pays, du bord de l'Europe.
Jacques Chirac, etc.
Mais cette phrase, vous savez, Jacques
contre
Chirac,
les Polonais, qui avaient dit qu'ils n'ont qu'à bien se tenir.
Tous les pays d'Europe de l'Est qui, en 2003, avaient soutenu l'invasion américaine, enfin, en tout cas, avaient soutenu les États-Unis dans leur invasion
en
Irak. Jacques Chirac leur avait dit ils auraient mieux fait de se taire. Cette phrase est toujours citée aujourd'hui quand on va à l'Est. C'est-à-dire qu'elle n'a toujours pas été digérée. Et en fait, tous les présidents français, qu'ils soient de droite ou de gauche, à un moment manifestent un mépris vis-à-vis de ces petits pays dont ils pensent qu'ils n'ont rien compris, et ils ont refusé de les écouter, alors que ces petits pays, justement, qui connaissent beaucoup mieux la Russie que Berlin ou Paris, avaient raison depuis le début. Donc on ferait bien aujourd'hui de les écouter un peu plus.
Alors, ces petits pays qui, comme vous dites, craignent que les Russes soient toujours dans une logique impériale, une logique d'empire, à vouloir reconstituer l'URSS, pourquoi pas, ou la Grande Russie, preuve que les Russes ont une nostalgie de cet empire. Hier, c'était le 70e anniversaire ou commémoration de la mort de Staline. Eh bien, vous allez voir, regardez ce reportage à Moscou. Pas tous, mais certains Russes sont nostalgiques de cette grande Russie incarnée par Staline. Sujet de Nicolas Chamotin, Romain Michelot et Nathalie Mendoza.
Des drapeaux de l'URSS et des portraits de Joseph Staline. Pour ce 5 mars 2023, jour du 70e anniversaire de la mort du dirigeant soviétique, ils sont un millier à se réunir sur la place Rouge. Une cérémonie qui semble venir d'un autre temps, mais de nombreux Russes sont encore nostalgiques de l'époque stalinienne.
Les gens se souviennent de lui. Ils le croient, tout comme ils le faisaient auparavant. et on serait heureux si un tel dirigeant revenait.
Un sentiment répandu chez les personnes âgées, mais une partie de la population reste traumatisée.
C'était une époque sanglante. Les gens étaient intimidés et effrayés, et ils ne pouvaient pas vivre comme ils l'entendaient.
De la fin des années 20 à sa mort en 1953, Staline a exécuté des centaines de milliers de personnes et envoyé des millions d'autres au goulag, des répressions aujourd'hui minimisées par le régime de Vladimir Poutine.
Elsa Vidal, on voit bien qu'il y a un sentiment quand même ambivalent, hein, on va être honnête. Hein. Il y a les deux sons de cloche, mais enfin, il y a une bonne partie de la Russie qui est nostalgique de Staline, qui a 60 millions de morts sur la conscience, hein, je crois, si on additionne tout. Hein.
Oui, mais c'est... En fait, la mémoire russe de cette période, de la période soviétique, mais particulièrement de les grandes répressions de la période stalinienne, elle est extrêmement fragmentée. Là, ce qu'on a bien vu sur la Place Rouge, bon, d'abord, c'est un millier de personnes, probablement d'abord des gens qui ont plus de 60 ans, qui sont nés et qui ont été éduqués et qui ont travaillé, qui ont connu leur jeunesse à l'époque soviétique, à l'époque d'une très grande puissance et d'un sentiment, d'une représentation du monde où la Russie soviétique, l'Union soviétique, était l'équivalent des États-Unis. Et ce sentiment de la puissance perdue nourrit aussi cette nostalgie. Ensuite, les plus jeunes, comme vous le voyez dans votre reportage, ont un regard tout à fait différent, mais plus souvent indifférent que contre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a eu, à la différence de certains pays, notamment des pays d'Europe centrale et orientale, aucun travail de mémoire, aucun travail qu'on appelle de lustration, c'est-à-dire de reconnaissance des torts, des crimes qui ont été menés. Et au contraire, on est en train de refermer depuis plusieurs années la page de ce travail qui avait été tenté par une organisation qui a été dissoute, qui s'appelle Mémorial, et dont le principal but était de rendre compte de tous les crimes de la période soviétique et particulièrement stalinienne. Et ces chercheurs sont en prison, l'ONG a été dissoute une fois pour toutes. Donc il y a une volonté de ne pas faire la lumière sur ces crimes. Et tant que cette lumière ne sera pas faite, il y aura non pas un risque de répétition, parce qu'on est beaucoup plus loin aujourd'hui, un risque d'instrumentalisation et de remise en œuvre des mêmes techniques. Je voudrais juste dire une dernière chose, après je vous passe la parole.
Prie, hein.
Il y a un proverbe qu'on utilise en Russie qui est « je suis un esclave ». Mais mon tsar gouverne le monde. Ah. Il y a des gens qui sont passés par le goulag, qui, quand Staline est mort, ont pleuré parce qu'ils avaient peur de la perte de pouvoir, etc. Donc c'est très paradoxal, mais c'est comme ça.
Est-ce que derrière cet hommage que certains ont vis-à-vis de Staline, il y a ce désir ou cette satisfaction d'avoir à la tête du pays un homme fort, viril, un peu comme Vladimir Poutine, et qui n'incarne pas ces valeurs occidentales décadentes que veut combattre Vladimir Poutine et qu'il voit s'enraciner en Ukraine.
Alors, l'homme fort, oui. Les valeurs morales et décadentes, je crois que c'est en fait un discours qui en fait est destiné uniquement à l'Europe occidentale et aux partis politiques qui peuvent en fait soutenir Vladimir Poutine. Ce discours ne prend pas du tout.
Pourquoi la population ?
Déjà parce que c'est
tous les trois jours, ils nous accusent de sombrer dans le wokisme, dans les transgenres.
Oui, ils prétendent qu'il n'y a pas d'homosexuels en Russie, etc. Mais en fait, quand on regarde les statistiques de la société, enfin de ce qui se passe dans la société russe. C'est quand même une autre histoire. Par exemple, la GPA. Poutine dit la GPA, c'est absolument abominable. La GPA est légale en Russie. Et il y a des usines à GPA. Il y a des gens qui se font beaucoup, beaucoup d'argent, etc. Donc c'est une pratique beaucoup plus courante qu'en Europe occidentale. Il y a une personne sur deux qui est... divorcés, enfin c'est les familles sont complètement déstructurées, le nombre de familles avec les pères alcooliques, etc. L'avortement est, je crois, multiplié par voilà.
Ah oui.
Donc en fait, la société décadente, c'est juste en fait un discours qui permet d'actionner les partis d'extrême droite en Europe. C'est un discours de propagande. Une fois qu'on a dit ça, il reste effectivement l'homme fort. Alors oui, l'homme fort, c'est très important en Russie. Elsa parlait du tsar, hein, le tsar soviétique. Poutine est un tsar soviétique. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que Staline représentait l'empire soviétique, comme le tsar représentait l'empire russe. Et ce que veut reconstituer Vladimir Poutine aujourd'hui est sans doute un mélange des deux, c'est-à-dire de l'empire tsariste et de l'empire soviétique, en fait, de l'URSS. Et comme ce travail d'illustration n'a pas été fait, comme ces gens vivent dans une espèce de propagande absolue depuis plus de 70 ans, eh bien, chaque Russe est, en fait, nostalgique de cette période de grandeur de la Russie, où la Russie était l'équivalent des États-Unis, enfin, pensait l'être, en tout cas, et où le monde était divisé en deux pays, entre les États-Unis et la Russie. Et donc, chaque Russe abreuvé de propagande ressent dans ses chairs et dans son âme ce sentiment, ce fameux sentiment d'humiliation. Donc il soutient Vladimir Poutine, il est nostalgique de Staline, c'était voilà. Alors après, il y a encore une troisième chose, c'est que Vladimir Poutine qui réécrit tout le temps l'histoire a fait de la fameuse de la guerre patriotique hein, de la Seconde Guerre mondiale le socle de l'histoire et de la fierté russe depuis quelques années. Donc Staline est du bon côté de cette guerre.
Alors sauf que Édouard Joly, l'armée rouge, elle faisait peur. Elle a engrangé elle a fait tomber Hitler à Stalingrad. Elle a maintenu le pouvoir. Elle n'a pas tremblé quand il a fallu aller à Prague. On est surpris. Est-ce que les Russes sont surpris? Est-ce que vous-même vous l'avez été par les difficultés de cette grande armée russe qui, au bout d'un an, ben voilà, on vient de dire, péniblement, est en train de peut-être emporter la bataille de Bakhmout. C'est quand même, c'est pas Stalingrad.
C'était l'armée soviétique, oui, avait emporté les victoires sur le front de l'Est que tout le monde a pu voir dans la cinématographie américaine ou autre. Mais ce qu'on a tendance peut-être à oublier, c'est que c'est l'armée qui avait encaissé le plus de pertes et que c'était un coût humain faramineux. Parce que là, ce qu'on a vu aussi avec votre sujet, c'est que c'est un régime totalitaire par essence. Le régime totalitaire, c'est celui qui méprise la vie individuelle, qui méprise les notions de vérité, qui méprise les notions de liberté politique.
Le soldat qui recule, il se fait abattre par ses généraux.
Et là, c'est ce qu'on retrouve avec la pression mise sur les mercenaires de Wagner, c'est-à-dire qu'on leur donne le choix entre la mort probable vers l'avant et la mort certaine vers l'arrière. Ouais. Donc c'est un fonctionnement politique qui est d'autant plus inquiétant et qui s'inscrit en opposition complète avec le modèle européen. Et là, ce qu'on voit à l'heure actuelle, finalement, pour rebondir à exactement ce que vous avez dit, c'est qu'on se rappelle que la Russie est un empire oriental et qu'elle s'est construite petit à petit comme un empire colonial. Et qui, là, aujourd'hui, on peut lire aussi cette guerre comme étant une guerre coloniale qui a déjà eu des prémices avec la Géorgie, avec aussi ce qui s'est passé déjà avec l'emploi de Wagner en Syrie. On le savait déjà en 2014-2015. Donc, on a eu une sorte d'amplification de ce qui s'est déjà produit à moindre échelle, avec moins d'enjeux internationaux. Et qu'on avait vu. Mais qu'on n'avait pas lu dans, et c'est toujours un problème en politique étrangère, c'est de lire ça, comme vous l'avez dit, dans la profondeur historique, mais aussi dans la profondeur prospective, c'est-à-dire voir ça comme étant une tendance de fond et comme étant donc un retour à un objectif impérial, c'est-à-dire de conquête de territoire pur et simple.
Elsa Vidal, comment expliquer, parce que face à tout cela, là, une mort certaine si on recule et une mort probable si on avance, un fiasco quand même militaire, le peuple russe, il y a un an, on se disait, mais peut-être qu'il va se lever, qu'il va protester contre cette guerre et déstabiliser Poutine. Pas du tout, on a l'impression. Est-ce qu'il est apathique, victime de la propagande? Comment expliquer ça?
Là aussi, je pense qu'on ne peut pas généraliser que les Russes comme les Français, ça n'existe pas véritablement. On peut prendre des segments de la population qui sont très différents. Encore une fois, quand vous êtes un habitant d'une ville de plus d'un million d'habitants, une grande ville avec un mode de vie très urbanisé, un accès plus facilité à l'étranger, des revenus supérieurs, vous pouvez être en contact avec le monde extérieur et vous former une autre vision, expérimenter un autre mode de gouvernance que celle que vous avez en Russie. Quand vous êtes dans des villes beaucoup plus petites ou dans des campagnes, que ces campagnes sont absolument désertées par l'emploi, l'armée est aussi un moyen de se promouvoir socialement. Et puis, il y a quand même une prégnance, un environnement informationnel, politique extrêmement puissant depuis plus d'une quinzaine d'années, qui a préparé la population à un esprit de revanche et à un goût pour la grandeur. Donc il y a eu tout un travail très en profondeur sur ces populations. Ensuite, et enfin, j'ai envie de dire, après plus de 100 ans d'un pouvoir très autoritaire, parfois totalitaire, qui a exalté, encore une fois, la violence, le sacrifice et la construction d'un État puissant, le fait politique est extrêmement péjoratif en Russie. Il n'y a pas de croyance que l'union des citoyens puisse produire un pouvoir politique plus juste que celui qu'exercent à l'heure actuelle des politiciens, que tout le monde comprend comme étant absolu, comme étant faisant un usage excessif du pouvoir. Il n'y a que des coups à prendre, mais sans ce pouvoir, sans doute, la société serait-elle confrontée à un chaos plus grand. Les plus jeunes commencent à se mobiliser, mais j'ai envie de vous dire que ceux qui étaient les plus mobilisés sur cette question sont partis, et que désormais le socle de la population qui reste en Russie est sans doute un socle de gens prêts à subir beaucoup plus de pression ou à recourir à des solidarités d'individu à individu, des solidarités actives entre des gens qui se connaissent pour sauver son fils, sauver son neveu, sauver son mari de la mobilisation ou au besoin pour payer des soins, payer des prothèses. Voilà, c'est plutôt comme ça que les gens se mobilisent. Il y a une très forte mobilisation dans la société russe, mais elle n'est pas collective.
Et si, alors comment sortir maintenant de cette guerre en Ukraine? Et si la solution venait de la Chine? Pékin, en tous les cas, a proposé un plan de paix en 12 points. Cette initiative, néanmoins, suscite le scepticisme de l'OTAN, d'autant que les Américains soupçonnent au contraire les Chinois de vouloir fournir des armes à la Russie. Sujet de Diane Schlinger.
La nouvelle a fait la une en Chine. Pékin veut se poser en arbitre international. Propose un plan pour ramener la paix en Ukraine. Un document qui appelle à respecter la souveraineté de tous les pays, cesser les hostilités, avec des clauses qui visent directement les États-Unis et l'Occident, mettre fin aux sanctions unilatérales, renoncer à la mentalité de guerre froide.
Nous sommes du côté de la paix et du dialogue. C'est le bon côté de l'histoire. La Chine souhaite partir de ce document et travailler avec le reste du monde pour contribuer au règlement politique de la crise.
La Chine, faiseur de paix, le chef de l'OTAN se montre sceptique.
La Chine n'a pas beaucoup de crédibilité parce qu'elle n'a pas été en mesure de condamner l'invasion illégale de l'Ukraine. Et elle a aussi signé quelques jours avant l'invasion un partenariat illimité avec la Russie.
Pékin tente de prendre la main alors que les États-Unis l'accusent d'être sur le point de livrer des armes à la Russie, des drones plus précisément. La Chine nie fermement ces allégations. Depuis un an, elle manie l'art de ni condamner ni reconnaître l'annexion de l'Ukraine par la Russie. Suffisamment proche du Kremlin pour avoir des accords énergétiques et financiers, suffisamment distante pour éviter de subir des sanctions occidentales. Mais selon les spécialistes, elle a toujours en tête un objectif idéologique.
Elle n'est pas tant contre l'Ukraine, ni même pour la Russie. Elle est avant contre les États-Unis, et c'est comme ça qu'on peut interpréter le positionnement de la Chine.
Moscou déclare apprécier les efforts de la Chine. Volodymyr Zelensky, lui, dit avoir l'intention de rencontrer Xi Jinping et demande à la Chine de tout faire pour que la Russie quitte le territoire ukrainien.
Alors Edouard Joly, votre point de vue. D'un côté, on a les Américains qui disent que les Chinois s'apprêtent à livrer des armes à l'Ukraine et de l'autre, on a ce plan de paix que propose Pékin en disant bah voilà, 12 points pour sortir par le haut de ce conflit.
Enfin, un plan de paix qui est plus un outil de communication pour rappeler leur position qui n'est ni un soutien direct de la Russie et toujours une opposition aux États-Unis. Donc c'est un appel à la cessation des hostilités pour discuter. C'est quelque chose d'assez classique finalement, mais qui malheureusement, étant donné la situation sur le terrain, pour que des négociations dans une guerre, pour que des négociations aient lieu, il faut qu'un des deux belligérants pense que sur le plan militaire, il ne peut plus l'emporter. Ça, c'est la condition sine qua non. Donc là, leurs 12 points, c'est une communication qui vise à montrer aussi que, et ça vous l'avez évoqué tout à l'heure, un des enjeux dans la politique étrangère mondiale, dans les relations internationales mondiales du conflit, c'est l'opposition entre un modèle non démocratique au modèle des sociétés démocratiques. Dans le cadre de la politique étrangère chinoise qui veut jouer un rôle d'arbitre et remplacer les États-Unis comme le gendarme du monde, ça reste l'objectif à très long terme, eux, ils voient comment les démocraties occidentales s'organisent, dans le cadre d'une reconquête de territoire. Et c'est ce qu'on voit toujours avec la Chine, c'est leur objectif à très long terme sur Taïwan. À l'heure actuelle, un modèle de guerre type Russie contre Ukraine à Taïwan serait difficilement envisageable parce que là, c'est une autre situation, c'est un débarquement amphibie, c'est une opération qui demanderait beaucoup plus de moyens et il y a peu de chances que cela arrive. Par contre, une infiltration lente de la société taïwanaise sans utiliser de moyens coercitifs directs et davantage avec les outils chinois, la propagande,
l'influence. C'est la leçon qu'ont retenu les Chinois peut-être du fiasco russe.
Oui, et je pense que c'est cela, c'est que
Ukraine.
La force a un coût énorme. Voilà. Et qu'il est davantage dans la stratégie chinoise, dans la pensée stratégique chinoise, de chercher des moyens indirects.
Et Isabelle Lasserre, est-ce qu'on peut aussi, parce qu'on est surpris de voir que les Américains on dit mais non, mais enfin vous n'avez aucune crédibilité. Enfin, c'était le secrétaire général de l'OTAN qui disait ça. Mais est-ce que ce serait très humiliant pour les Américains que de voir la Chine s'ériger en nouveau maître, en faiseur de paix et en nouveau maître des négociations dans un conflit entre l'Ukraine et la Russie?
Oui, probablement, mais je pense que les Américains ne prennent pas ce plan de paix chinois au sérieux, et ils ont raison, parce que en l'état actuel des choses, c'est plutôt un plan de paix qui serait totalement favorable à Vladimir Poutine, et on sait quel est en fait l'avenir de tous ces plans de paix qui sont faits pour ménager la Russie. Les accords de Minsk ont duré quelques années, puis sont terminés par une guerre intégrale. Je trouve il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est que on a dit avant les Occidentaux n'ont pas cru à la guerre russe en Ukraine en se disant ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas dans les intérêts de Vladimir Poutine. Et là, j'ai l'impression qu'on reproduit la même chose quand on essaye d'analyser les relations entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire qu'on dit les Chinois ne peuvent pas soutenir si longtemps la Russie. Ils vont en avoir marre. Ils voient que la Russie, que l'armée russe n'est pas à ce niveau, que Vladimir Poutine ne respecte rien, etc. Donc ils vont forcément se détacher de la Russie. Dans un cas comme dans un autre, je pense qu'on sous-estime absolument la question idéologique. Et en fait, c'est ça le moteur de... pas seulement, il y a la conquête territoriale, etc. Mais l'élément idéologique, alors qui a disparu de nos sociétés, est dans ces pouvoirs politiques, mais absolument fondamental. Et aujourd'hui, peut-être que Xi Jinping considère que Vladimir Poutine fait n'importe quoi, qu'il est en train de perdre, etc. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Le plus important, c'est que son intérêt... et de constituer un bloc anti-occidental, un bloc suffisamment puissant pour fragiliser les démocraties libérales et renforcer le monde autocrate et dictatorial, et faire un chemin comme ça large pour la Chine. Et les Chinois, pour alors, l'instant, aujourd'hui, Américains... soutiennent les Chinois, ouais. Soutiennent les Russes. Alors, la seule chose...
Est-ce que vous livrez des armes ? C'est ce que dit Blinken.
J'ai eu des sources européennes et françaises il y a trois semaines qui étaient catégoriques. Les Chinois livrent des armes à la Russie. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais moi ça ne m'étonne.
C'est un engrenage terrible, ça. Alors,
mais moi ça ne m'étonnerait pas. En fait, la seule limite pour l'instant que la Chine a imposée à Vladimir Poutine, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire. Et alors là, très très bienvenue. Hein. C'était au G7 de Bali à l'automne dernier. Il lui a dit là, tu ne traverses pas cette ligne, sinon tu nous perds. Et d'ailleurs, la menace nucléaire est beaucoup moins brandie par le
d'ailleurs, c'était dans les 12 points du plan de paix, c'est le non-recours à toute arme nucléaire.
Donc, là, les Chinois ne plaisantent pas sur la question nucléaire. Mais pour le reste, ils soutiennent la Russie. C'est une alliance qui fonctionne. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais l'intérêt des Chinois aujourd'hui, c'est de continuer à soutenir
donc
Vladimir Poutine.
Là encore, Elsa Vidal, il y a un an, on espérait que le peuple russe se leverait contre Vladimir Poutine. Certains espèrent voir la Chine forcer la main de Vladimir Poutine en lui disant « Maintenant, tu cesses tes bêtises parce que cette guerre fait monter le prix du pétrole et déstabilise le monde. » Isabelle Lasserre nous dit non, on voit se constituer un axe des régimes autoritaires, Pékin-Moscou. versus les démocraties occidentales.
Alors, il y a ça, évidemment, puisque c'est la déstabilisation des démocraties occidentales, c'est vraiment, je dirais, le cœur de métier depuis au moins 10 ans d'une partie du régime de Vladimir Poutine. Pour la Chine, la question est très ancienne, mais Xi Jinping est effectivement un idéologue très dur. Les intellectuels chinois disent qu'il y a vraiment un durcissement du régime. Ils comparent souvent la période actuelle au retour à la révolution culturelle où il y avait eu des purges massives. Et c'est quelqu'un qui poursuit une politique revanchiste dans l'arène internationale. La Chine, on l'a oublié très souvent en Europe, la Chine a été conquise par les puissances occidentales au XIXe siècle. Elle a été mise en pièces. Elle dénonce très régulièrement les traités inégaux, c'est des traités qui l'ont mis au service du développement de la puissance occidentale. Xi Jinping veut laver cette offense, veut exprimer la puissance chinoise au niveau maximum à l'échelle mondiale, contrecarrer l'influence américaine. Il en a moins après l'Europe qu'au niveau des Américains. Si les États-Unis ne proposent pas des éléments intéressants à Xi Jinping pour sa propre puissance, il n'a aucune raison de reculer sur la question russe. Pourquoi le ferait-il? Effectivement, il essaiera le plus possible de ne pas se faire prendre la main dans le sac sur les armes, mais la Chine, l'Inde, la Turquie aussi, notre allié de l'OTAN, n'appliquent pas de sanctions économiques contre la Russie et servent de facto d'une zone pour contourner l'impact de ces sanctions. Alors, elles doivent exister, les sanctions, malgré tout, mais la Chine, de facto, a rencontré Vladimir Poutine, a rencontré Loukachenko, donc le président biélorusse, n'a jamais rencontré Zelensky. Et c'est Zelensky qui demande instamment, qui s'est saisi de cette présentation du plan de paix pour dire « moi, je veux vous rencontrer ». Tant mieux, tant mieux.
Alors, en tous les cas, cette guerre au cœur de l'Europe nous a rappelé qu'une guerre de haute intensité qu'on croyait appartenir au livre d'histoire est possible sur le vieux continent. Du coup, l'armée française doit changer de logiciel, en tous les cas. La semaine dernière, dans le cadre de l'expérience Orion, l'armée française a simulé un débarquement sur les terres près de Sète dans l'Hérault. Vous voyez ce reportage de Véronique Gaglione et Brian Bock.
Dès 6h à Sète et à Frontignan, c'est un véritable débarquement. 700 hommes et 145 véhicules de l'armée investissent le port.
C'est un débarquement, c'est bien, c'est les Français, ça rassure aussi, dans le contexte actuel.
Ça fait une atmosphère un peu bizarre, qu'on n'aimerait pas vivre, ça c'est sûr et certain. Voilà, tout simplement.
Une noria de bâtiments armés croise à quelques encablures de la plage, c'est l'opération Orion. Un exercice grandeur nature qui mobilise 7000 soldats sur 14 départements du sud de la France. Dans le ciel de Castres, 350 parachutistes ont été largués avec 50 tonnes de matériel.
On reste en appui, au top, appui mutuel, dans le découvert, pour rejoindre le bois qui est de l'autre côté. C'est bon ?
Leur mission, faire reculer une milice ennemie.
Nous avons été pris à partie directement sur la zone de saut par l'ennemi qui avait profité du largage matériel. Alors heureusement pour nous, on a été recueillis par l'équipe commando.
À Castres comme à Frontignan, des blessés fictifs sont pris en charge. Pour les militaires, c'est l'occasion de coordonner toutes les forces aériennes, maritimes et terrestres avec des pays alliés, une guerre sur tous les fronts. Sur le terrain, les hommes débarqués vont tenter de repousser l'ennemi. Cette guerre devrait s'achever dans 70 jours et permettre d'affiner le profil de l'armée de demain.
Édouard Joly, est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur là ? Les Russes n'arrivent pas à prendre Bakhmout, ils ne sont pas prêts de prendre Sète ou Montpellier ?
Non, bien sûr. Mais cet exercice, il a plusieurs objectifs. D'abord, c'est comme tous les exercices, c'est d'entraîner nos armées. Ça fait partie de leur formation. La différence avec les autres exercices qu'on a pu voir ces dernières années, c'est d'abord l'échelle. Lorsque vous avez des exercices pour des opérations extérieures avec des plus petits contingents, votre pion tactique, pour ainsi dire, ça va être la compagnie, le régiment ou la brigade, donc de 150 personnes jusqu'à entre 1000 et 3000 personnes. Dans un exercice de haute intensité, et là c'est l'objectif de cet exercice, D'accord. C'est de passer au niveau divisionnaire. Donc ça, l'armée française n'en avait plus l'habitude depuis la fin de la guerre froide, puisqu'on ce n'était plus du tout ni dans nos moyens, ni dans notre conception. On a d'abord besoin donc de se réorganiser à grande échelle. Pas pour se préparer à un débarquement, comme vous le dites.
Mais pour muscler son jeu. Quoi.
Mais surtout pour montrer à nos partenaires de l'OTAN et de l'UE qu'en cas de souci, si on doit intervenir en coalition, puisque ce serait dans ce type de scénario-là, on doit montrer que l'armée française peut jouer un rôle. Et enfin, l'autre aspect de la haute intensité, outre le fait que ça remobilise l'histoire, c'est que l'intérêt de cet exercice aussi, c'est d'être dans du multichamp, multimilieu, c'est-à-dire qu'on a la composante air, mer et terre, mais on a aussi les questions de guerre dans l'espace, les questions de cyber, les questions de lutte informationnelle et d'influence.
Voilà, en tous les cas, la guerre qui s'est brutalement réinvitée dans notre quotidien, et on a vu cet habitant dire « ça rassure parce que ce sont les Français », parce que c'est vrai que tous ces bruits de bottes au cœur de l'Europe font peur. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.